Les séminaires du Collège de France.
Bonjour, et donc maintenant nous passons donc au séminaire, et c'est un grand plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Zacharia Samara, qui vient du CNAM à Paris. Alors, le CNAM, on connaît évidemment les bâtiments historiques, mais le CNAM vient d'installer un nouveau laboratoire de chimie très moderne et très bien équipé, donc à Saint-Denis. Et donc c'est là que Zach effectue son activité. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de lui. Donc, Zach est pharmacien, diplôme qu'il a obtenu en 2006, donc à l'université de Paris Sud. Et diplôme de pharmacien s'est accompagné d'une recherche en chimie dans le laboratoire de Delphine Joseph, puisqu'il a fait aussi son master, sa thèse de pharmacie et son doctorat en travaillant sur des ligands potentiels des récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, et donc développement de nouveaux alcaloïdes pyrolininiques de l'Obelia. Donc globalement une activité très tournée évidemment vers le médicament, couronnée de nombreuses publications. Et globalement, ensuite, après cette thèse, donc en 2012, il a fait un postdoc à Nottingham dans le laboratoire du Sir Martin Polyakov et du professeur Michael George, où là, il a vraiment fait un virage important et qui explique aussi ce qu'il va nous raconter aujourd'hui, où là, où il s'est intéressé globalement aux fluides supercritiques et des réactions de catalyse dans ces milieux-là, et puis aussi la chimie en flux, et donc une orientation qui va garder de façon importante, qui va aussi préciser par un deuxième postdoc à l'OSPCI avec Janine Cossy et Patrick Tabling. Et puis donc il est devenu ensuite, depuis 2015, maître de conférence au CNAM, où il a une activité de recherche très dynamique, récompensée par de nombreux prix. Il est notamment Fellow of the Royal Society of Chemistry, membre de l'UF Junior depuis peu. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de ses activités de recherche tournées donc vers l'utilisation de la photochimie dans un contexte réellement de développement de chimie verte. Donc, merci Zach, et puis c'est un grand plaisir de t'avoir et de bientôt t'écouter.
Bien, merci beaucoup Louis d'abord pour l'invitation, puis cette très jolie introduction. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, pour écouter ce séminaire. Un séminaire, donc j'ai un peu changé le titre de ce séminaire. J'ai rajouté le mot more en anglais, et puis je l'ai traduit en français aussi. Alors mes slides sont, je vais parler en français, mais les slides sont en anglais. Et puis j'ai rajouté le qualificatif plus aussi en français. C'est en traduisant que je me suis rendu compte que, en fait, on avait besoin d'un peu plus d'humilité aujourd'hui en tant que chimiste pour parler notamment de chimie verte, parce que la chimie, forcément, c'est pas forcément quelque chose de très vert. Toujours, et on essaye aujourd'hui vraiment de tendre vers la chimie verte. Donc c'est pour ça qu'il nous faut rajouter ces petits qualificatifs devant ce mot durable. La photochimie, c'est vous l'avez vu, quelque chose d'extrêmement riche, avec une réactivité immense, on dirait presque infinie. Mais c'est aussi quelque chose qui a fait rêver les chimistes, parce qu'on pouvait potentiellement utiliser l'énergie solaire, qui est abondante, quasiment infinie, pour transformer des réactifs, et en utilisant ces photons qui sont des réactifs qui ne laissent pas de traces en fait, dans les procédés. Donc c'est quelque chose qui a presque vu le jour, hein, au niveau industriel ou pré-industriel, notamment avec les travaux d'Olgemeller qui étaient assez intéressants. Et d'ailleurs, historiquement, la photochimie a bien sûr plus d'un siècle en chimie organique, et les premières expériences de photochimie utilisaient la lumière solaire, notamment sur les balcons de Giacomo Chamichan du laboratoire à Bologne en Italie, voilà, les Italiens avaient étaient très prolifiques dans l'étude de la photochimie, et les Allemands aussi. C'est les Allemands qui ont développé ces réacteurs de miroirs qui permettent de concentrer la lumière, pardon, dans ces tubes, donc pour pouvoir utiliser plus efficacement l'énergie solaire. Alors il y a dans cette revue de l'Eblebici, en 2020, on a recensé plus de 8000 réactions photochimiques seulement depuis 1975, sachant que la photochimie date d'avant les années 1900. D'accord ? Donc il y a énormément de réactions qui sont connues. On en voit encore des développements aujourd'hui très 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 importants. Il y a un potentiel énorme dans la réduction du dioxyde de carbone pour produire du méthanol. Et ici, au Collège de France, il y a des acteurs très importants sur ces travaux de recherche qui ne sont pas encore développés au niveau industriel, mais il y a également énormément d'attentes là-dessus et d'espoir. Au niveau industriel, cependant, il y a pour l'instant donc pas beaucoup d'applications de la photochimie. On a principalement des applications dans le traitement de l'eau. Et puis quelques applications en chimie organique. Bien sûr, on ne les connaît pas toutes, parce que l'industrie, comme vous le savez, c'est un monde qui reste assez secret. Et donc toutes les applications industrielles ne sont pas connues. Il y a probablement, ce chiffre est probablement sous-estimé. Surtout aujourd'hui, il y a probablement de nouvelles applications qui sont en train de se développer, comme dans les sociétés comme Merck, les sociétés pharmaceutiques, les sociétés de la parfumerie, etc. Alors, une des applications, des grandes applications industrielles de la photochimie, c'est l'utilisation de l'oxygène singulé, dont je vais parler tout au long de ma présentation. Et alors, un des grands procédés industriels, c'est la production d'oxyde de rose par tous les parfumeurs, comme la Dragoco Symrise, mais aussi l'entreprise Takasago, le Firmenich, Givaudan. Il y a beaucoup de grandes firmes de production d'arômes qui utilisent la photochimie et notamment ce procédé. Alors vous voyez ici, ce sont des réacteurs dans lesquels on a un colorant qui va absorber la lumière. Et ici, ce colorant, c'est le rose bengale. Et ce colorant va venir exciter l'oxygène. Je vais revenir plus en détail sur ce mécanisme pour produire ces peroxydes halyliques qui sont réduits en alcool halylique, qui sont ensuite transformés en oxyde de rose. Un deuxième procédé extrêmement important industriel, c'est la synthèse de l'artémisinine, ici, par Sanofi. Donc l'artémisinine, c'est un antimalarique très puissant, donc, qui est un traitement très efficace contre la malaria, et pour lequel il n'y a encore pas beaucoup de résistance. Et donc c'est un médicament qui doit être produit vraiment à grande échelle pour essayer de lutter contre la malaria, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, c'est un procédé pareil qui va être dans ces réacteurs, donc ce sont des réacteurs d'environ 200 litres, je crois, dans lesquels vous avez des lampes à mercure plongeantes. Donc, les lampes viennent à l'intérieur du réacteur et viennent irradier, donc c'est de la lumière verte ici, qui vient irradier cette porphyrine. C'est de la lampe à mercure, donc pardon, c'est polychromatique, excusez-moi. Et donc ça vient irradier, exciter cette porphyrine pour produire l'oxygène singulé, dont je vais reparler encore une fois tout à l'heure, et faire cette photooxydation pour produire cette hydroperoxyde halylique qui est clivée en milieu acide par le TFA pour produire ici, donc ça va y avoir une ouverture de cycle, départ d'eau, formation d'un carbocation, ouverture du cycle pour former cette cétone. Et cet énol ensuite est réoxydé par l'oxygène triplet pour former ici cet endoperoxyde dans une cascade vraiment très intéressante d'un point de vue mécanistique pour un organicien. Alors le problème de cette artémisinine, eh bien, c'est qu'elle coûte encore un peu trop cher. Elle est produite par extraction par voie naturelle à des prix qui fluctuent entre 250 $ le kilo jusqu'à 1100 $ le kilo. Et cette fluctuation de prix pose un énorme problème. Donc c'est pour ça qu'il y a ce procédé industriel chimique qui est dessiné ici, qui part en fait d'une levure génétiquement modifiée qui va produire ici cette acide dihydroartémisinique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Donc en injectant les gènes qui codent pour la biosynthèse de ce, de ce terpène, eh bien, on va pouvoir le produire en une étape finalement. Donc, ce sont des petites usines chimiques, ces levures. Et cette production produit cet acide dihydroartémisinique avec un titre de 25 grammes par litre, ce qui est relativement élevé compte tenu de la complexité de cette molécule. D'accord ? Mais néanmoins, le prix ici reste toujours trop élevé. Et donc, on a travaillé en collaboration avec le professeur Janine Cossy, avec qui j'étais au départ en post-doc, comme l'a mentionné Louis. On a travaillé sur l'amélioration de ce procédé, notamment du point de vue du coût de production. Et on s'est intéressé à un déchet de ce procédé de fermentation qui s'appelle l'amorphadienne, ici, qui est produit, lui, avec un titre allant jusqu'à 120 grammes par litre, donc il est beaucoup plus facile à produire parce qu'il est moins oxydé que son homologue acide dihydroartémisinique, donc parce qu'en fait, bon, il n'y a pas cet acide carboxylique qui est difficile à faire parce qu'il vous faut bio-ingénérer des oxydases dans ces levures. Alors, comment est-ce qu'on a essayé d'utiliser ce déchet ? Eh bien, on a développé, c'est pour ça que je mentionne ça juste au début de ma conférence, c'est parce que ça fait un peu écho au cours de Louis sur la chimie des thiols et notamment des réactions de Thio-N. On a utilisé ici une réaction de Thio-N en flux continu, donc je vais vous décrire très rapidement ça, donc dans lequel ce thiol va venir s'additionner sur cette double liaison pour produire ce thioéther qu'on va ensuite oxyder pour former ce sulfoxyde, puis par réarrangement de Pumerer, eh bien on va obtenir cet acide dihydroartémisinique après réarrangement puis oxydation. Donc ça permet de convertir par une chimie qui est très peu coûteuse un déchet abondant du procédé vers un produit qui est un intermédiaire vers la synthèse de ce médicament. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise cette chimie en flux continu ? Je vais venir un peu plus en détail là-dessus. Eh bien, c'est à cause de cette fameuse loi de Bernambert dont a parlé Louis, mais aussi Ludovic Julien dans son séminaire. Cette loi de Bernambert, eh bien, nous pose de gros problèmes, nous chimistes, parce que en fait, la lumière ne pénètre pas efficacement dans ces réacteurs. Et donc, quand vous imaginez une grosse cuve, notamment ces grands tubes dans lesquels on faisait le citronellol, ou l'oxyde de rose, il y a une forte atténuation optique à l'intérieur du réacteur, ce qui fait qu'on a un gros problème à cause de cette diminution exponentielle de la pénétration de la lumière. Et donc, on va ici switcher l'utilisation de réacteurs en batch vers des réacteurs en flux dans lesquels on va avoir une tubulure. Alors là, c'est un tout petit réacteur de labo que vous pouvez acheter ou faire vous-même, c'est très facile. Donc, c'est simplement des tubes qui sont commerciaux en PFA, en perfluoroacrylate. Vous pouvez également utiliser du PTFE. Et donc, vous faites passer votre liquide réactionnel dans ce réacteur, et puis il va sortir, vous collectez à la fin, et puis vous allez mettre une LED qui va irradier ce système. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est parce qu'on augmente la surface d'irradiation de manière phénoménale, et donc on augmente la productivité, la vitesse de la réaction, parce qu'on a une meilleure irradiation. Alors là, vous voyez qu'on a fait ça dans ce tout petit réacteur, on avait une conversion de 25%. En fait, la réaction ne marchait pas du tout en batch, parce qu'on utilise ici un thiol qui est assez gras et qui est pas très réactif avec cette amorphadienne. Et on a switché sur l'utilisation d'un réacteur qui est en format laboratoire ici, mais qui est également disponible à l'échelle industrielle. Donc ici, c'est un réacteur de 5 ml et le format industriel fait seulement 150 ml, mais produit déjà des tonnes de produits. Donc c'est pour vous dire, voilà, l'efficacité de cette chimie en flux, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de réacteurs qui prennent beaucoup de place pour pouvoir produire une grande quantité de produits. Donc comment est-ce qu'il fonctionne ce réacteur ? On a ici le liquide qui va passer d'abord dans une vanne de pulsation, donc le flux va être pulsé, et puis ensuite il va arriver ici, le milieu réactionnel, au niveau de là où il y a cette ligne-là. Vous avez ici en fait un système qui est très fin, et donc qui est aussi équipé de pylônes dans lesquels vous allez avoir un frottement avec le liquide. Et parce que le flux est pulsé, vous allez augmenter très fortement la turbulence du système et augmenter les propriétés de mélange. Et donc, par-dessus, vous allez venir placer une lampe LED, ici, qui va venir irradier dans cette lucarne le liquide réactionnel. Et donc là, on arrive en une seule fois à produire jusqu'à 95% de conversion, 15 grammes de produit, de ce produit-là. Et vous voyez ici l'aspect un peu laiteux du milieu réactionnel lorsqu'il sort du réacteur, c'est parce que justement ça crée une émulsion, parce qu'il y a une très forte turbulence dans le système. Donc c'est des réacteurs qui sont très intéressants également pour la formulation. Alors voilà, ça c'était une petite parenthèse sur l'obtention de ce produit. Maintenant je vais aller sur ce qui nous intéresse et ce qui va m'intéresser pendant cette conférence, c'est ce procédé avec l'oxygène singulé ici. Et pourquoi est-ce que cet oxygène singulé va nous intéresser particulièrement? Parce que ce procédé finalement, il n'est pas très efficace. On a ici uniquement 55% de rendement sur la production de cette artémisinine. Donc on perd la moitié du produit au cours de cette transformation. Et un produit qui, comme je vous l'ai expliqué, a un coût important. Donc on va essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et là, je vais vous expliquer la photochimie de cet oxygène singulé. Donc qu'est-ce qui se passe pour produire cette espèce ici, donc, qu'on appelle oxygène singulé? Eh bien, on va exciter un colorant comme la porphyrine ou le rose de Bengale. Et donc ce colorant va passer d'un état fondamental S0 à un état excité d'abord S1, dans lequel vous avez un désappariement des électrons, et puis ensuite, par conversion intersystème, vous accédez à l'état triplet, donc, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, notamment sur les nitro-ARN. Donc cet état triplet, vous avez maintenant une orientation parallèle des électrons d'un même sens. D'accord ? Et donc cet état triplet, qui est plus faible en énergie que l'état singulé, eh ben, va pouvoir sensibiliser l'oxygène triplet, qui est lui triplet à l'état fondamental, donc c'est un transfert triplet-triplet d'énergie, qui va venir produire de l'oxygène singulé. Alors l'oxygène singulé, il existe sous plusieurs formes, soit sous une forme dans laquelle les électrons sont sur deux orbitales séparées, soit ils sont appareillés. Et donc, à ce moment-là, on a apparition d'une lacune électronique et d'un doublet non-liant. Et ça rappelle un petit peu la réactivité des carbènes. Hein, donc le carbène dans lequel on a cette dualité un peu de doublet lacune électronique qu'on retrouve dans cet oxygène singulé. Et alors donc la façon dont cet oxygène singulé va venir ensuite réagir avec une double liaison notamment, ça c'est les propositions de mécanistique de Adam, qui a été un des grands contributeurs de la chimie de l'oxygène singulé, eh bien ça va venir former ici un père-époxyde. Donc une sorte d'époxyde dans lequel l'oxygène est cationique, et donc l'autre oxygène de la molécule va lui être un peu basique et va venir déprotoner un proton en alpha pour former le peroxyde allylique correspondant. Donc ça c'est un des exemples de réactivité de l'oxygène singulé parmi de très nombreuses autres possibilités. Donc l'oxygène singulé peut engager des réactions de type 2 plus 2 sur des doubles liaisons qui n'ont pas d'hydrogène en alpha. Il peut faire des réactions de type 4 plus 2 avec les diènes pour former ces endoperoxydes. Il peut former également par réaction 4 plus 2 sur des phénols, notamment des quinones. Donc c'est très intéressant parce qu'on va se retrouver avec un oxygène en position para. On peut oxyder les soufres, les phosphines, les amines, pour créer des iminiums. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir faire de l'activation CH en alpha, et les éthers également, on va pouvoir générer un radical en alpha qui peut être piégé par l'oxygène. Donc cette chimie de l'oxygène singulé est très riche, et de manière générale, la chimie également des transferts d'énergie comme par photocatalyse est une chimie qui est extrêmement riche. Le problème, c'est que on utilise donc soit des colorants organiques qui sont relativement instables. En fait, il y a souvent un phénomène de photobleaching au cours de ces réactions photochimiques, c'est-à-dire que ces colorants vont finir par se décolorer, le milieu va devenir incolore à la fin de la réaction, et donc on a une désactivation complète du catalyseur au cours de la réaction, ce qui fait qu'on n'a pas un procédé qui est stable dans le temps, c'est-à-dire qu'on a une fluctuation de la cinétique réactionnelle forcément, puisqu'on perd le catalyseur. Et puis on a des catalyseurs organométalliques qui sont extrêmement puissants puisqu'ils permettent, notamment grâce aux atomes lourds du ruthénium ou d'iridium, eh bien d'avoir une très forte efficacité du croisement intersystème. Ça permet de peupler très efficacement ces états triplets. On a quasiment 100% d'états triplets qui se forment à l'état excité. Et donc ils sont extrêmement bons pour faire du transfert d'énergie. D'ailleurs, un petit clin d'œil à cette réaction de 2 plus 2 de Paterno-Bucci qui est maintenant photosensibilisée par ces catalyseurs à l'iridium. On peut également moduler cette énergie de l'état triplet, ce qui est très puissant et ce qui permet d'expliquer les variations de rendement. Donc vous voyez ici qu'en fonction de la substitution des noyaux phi-pyridine sur cet iridium, eh bien, vous allez pouvoir avoir une énergie, accéder à des énergies d'état triplet variées et donc avoir un rendement dans cette réaction de 2 plus 2 plus ou moins important. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant, cette transfert d'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de ces photosensibilisateurs sont homogènes, solubles, et donc on ne peut pas les recycler au cours de ces réactions chimiques. Et donc nous, on s'est intéressé à cette chimie en se demandant si on pouvait développer des systèmes hétérogénéisés, non solubles et recyclables de ces photosensibilisateurs. Donc c'est un petit peu ça, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen d'avoir quelque chose de plus efficace et plus vert pour ces réactions chimiques? Et donc on s'est demandé si on ne pouvait pas hétérogénéiser ces photosensibilisateurs sur des supports solides pour les rendre insolubles et recyclables. C'était un petit peu ça l'idée de base, on va dire peut-être assez simple. Lorsqu'on a plongé dans ces travaux de recherche, on ignorait totalement tout ce qu'on allait découvrir après, et que je vais vous raconter maintenant d'un point de vue tout à fait logique. En effet, ces photosensibilisateurs, ils forment des agrégats en solution, ce qui les rend encore moins réactifs. D'accord ? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un très fort photobleaching, c'est parce qu'ils vont réagir entre eux plutôt que de réagir avec leurs partenaires, les molécules avec qui sont censées activer. Parce que ce sont des molécules polyaromatiques et elles ont tendance à s'agréger de manière très forte. Donc, le fait de pouvoir les supporter sur des solides, sur des surfaces, on va les désagréger et on va les rendre plus réactives. On va également les stabiliser et on va augmenter les cinétiques réactionnelles, vous allez le voir. Alors, on va introduire des nombreux effets, comme les phénomènes de diffusion au niveau de ces interfaces. Et puis, on va avoir également des phénomènes optiques qui sont non négligeables parce que vous avez vu que la lumière ne fait pas que des phénomènes chimiques, elle fait également surtout des phénomènes physiques qui sont notamment des phénomènes de diffusion. Donc, le photon va venir taper sur ces particules et diffuser de manière totalement stochastique dans le milieu réactionnel. Donc, c'est ce qu'on va appeler, de manière un peu intelligente, le contrôle interfacial. Voilà. Donc, on s'est intéressé d'abord, pour commencer, à ce photocatalyseur que vous allez probablement voir en long et en large dans les prochains cours, sur la photocatalyse, qui est le ruthénium trisbipi, qui est un sel, ici un sel de chlorure, et donc ce sel de chlorure est très soluble dans l'eau. Et lorsqu'on ajoute de la silice, très rapidement, on va avoir une absorption très rapide sur cette silice dans l'eau. Vous voyez ici ce film, c'est un film en accéléré, mais c'est très rapide. Vous avez un phénomène d'absorption, et on peut varier très facilement la charge, la densité de sites en ruthénium trisbipi sur la silice, en simplement faisant varier la quantité de ruthénium trisbipi et de silice. Vous voyez ici la sédimentation très rapide de ces solides qui sont maintenant colorés. Lorsqu'on les filtre, on récupère ce catalyseur. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est parce que la silice possède des groupements silanol en surface qui sont acides et en milieu aqueux, ils sont partiellement déprotonés et donc on a une surface qui est négativement chargée. Et donc on a une interaction électrostatique ou ionique entre le ruthénium trisbipi et la silice dans l'eau, ce qui nous permet de l'absorber efficacement. Alors on s'est intéressé à un truc assez très simple et un peu, on va dire, rigolo, c'est de rajouter à nos particules de silice couvertes de ruthénium trisbipi de la silice nue, on va dire. Et on s'est demandé si on allait avoir une désorption de notre ruthénium trisbipi et une réadsorption sur la silice. Comment est-ce qu'on a fait ça pour essayer de contrôler ça ? On a fait de la microscopie par fluorescence. Et on voit ici donc, toutes ces particules de silice qui sont fluorescentes. Et, en effet, ça veut dire qu'on a eu un relargage du ruthénium trisbipi et une réadsorption sur la silice parce qu'on n'a plus de particules qui sont non fluorescentes dans le milieu. Donc c'est ce qu'on a appelé en anglais le capture and release, ou un phénomène un peu boomerang, si vous voulez, de relargage de ruthénium trisbipi. Donc ça veut dire que ce ruthénium trisbipi n'est pas attaché de manière très solide à nos particules. D'accord ? Alors, d'un point de vue synthétique, à quoi est-ce que ça sert? C'était d'ailleurs un peu un des commentaires du premier reviewer de cet article, ici, dans ACS Catalysis. Donc on a dû démontrer un peu la pertinence de ce système. Donc, on l'a utilisé pour essayer de produire de l'artémisinine. Comme ce composé coûte cher et qu'on était un peu au démarrage de mes travaux indépendants au CNAM, on n'avait pas beaucoup de moyens et on n'a pas pu faire énormément d'essais, donc on n'a pas optimisé vraiment cette transformation, on a juste essayé de faire une exemplification. Et en un seul coup, du premier coup, on a eu quelque chose de reproductible, hein, mais du premier coup, on a eu 40% de rendement en artémisinine en utilisant ici de la silice rubipi sans acide, donc sans TFA comme dans le procédé industriel. Et le procédé industriel est également à moins 10 degrés et nous, on est à température ambiante. Et donc, on a un rendement qui n'est pas loin finalement du rendement de Sanofi de 55% qui lui a été suroptimisé pendant des années. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a en fait un système qui est un peu acide également et qui permet de catalyser ce clivage de ce peroxyde en même temps qu'un effet de photochimie. Donc ces systèmes sont recyclables, on a pu les recycler plusieurs fois. Bien sûr, le catalyseur n'est pas immortel, donc on finit par perdre de la conversion. Mais lorsqu'on mesure le stress en condition de stress catalytique, c'est-à-dire quand on a une grande quantité de substrat et une très très faible quantité de catalyseur, eh bien, ce qu'on appelle le stress catalytique, on va pouvoir tuer le catalyseur volontairement et on va calculer le nombre de cycles catalytiques qu'il a été capable d'effectuer. Et donc, on va comparer cette performance en milieu homogène versus hétérogène et on se rend compte qu'on a un facteur 4 de différence entre le catalyseur homogène versus hétérogène. Donc, on a augmenté très fortement la stabilité de notre catalyseur en l'immobilisant sur ses particules. Si on suit maintenant la cinétique de cette réaction dans le temps, donc on fait un monitoring, on va regarder petit à petit comment la conversion évolue. On a ici la conversion avec le système homogène et ici vous voyez la conversion avec le système hétérogène. Et de manière très intéressante et très intrigante, on se rend compte que la réaction est fortement accélérée dans le milieu hétérogène, et particulièrement avec des systèmes qui sont fortement dilués en ruthénium-trisbi pi par rapport à la silice. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intriguant et qui nous a poussé à poursuivre la compréhension mécanistique de qu'est-ce qui pouvait se passer. Pour essayer de comprendre ça, on s'est intéressé à de la spectroscopie, notamment à l'émission de lumière de l'oxygène singulé. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier et c'est une expérience que vous pouvez faire au laboratoire. Pour de la vulgarisation, c'est l'expérience de chimioluminescence pour générer de l'oxygène singulé. En effet, l'oxygène singulé il peut se générer par une méthode non photochimique. Donc, par exemple, en prenant de l'eau oxygénée avec un métal ou avec du chlore, vous pouvez générer ici de l'oxygène singulé. Et comme il est en milieu très très concentré, cet oxygène singulé, parce que ça c'est vraiment des conditions assez concentré, eh bien vous avez une désexcitation bimoléculaire de cet oxygène singulé en oxygène triplet et émission d'une lumière à 630 nanomètres qui correspond à la moitié ou au double en énergie de cette énergie qu'on perd lorsqu'on a un déclin énergétique entre l'état S1 et l'état T0 de l'oxygène singulé à 1270 nanomètres. Donc ça, c'est assez fascinant, c'est que cet oxygène singulé, il fait de la phosphorescence et on peut la détecter. Donc là, on a travaillé en collaboration avec Cyril Monroe à l'ENS de Lyon. Parce qu'ils ont des spectrophotomètres qui permettent de détecter la luminescence de l'oxygène singulé. Et vous avez ici en bleu la luminescence de l'oxygène singulé avec le ruthénium trispipi en solution. Vous voyez cette belle courbe qui est le beau signal d'émission de l'oxygène singulé à 1270 nanomètres. Et de manière très intrigante, notre système hétérogénéisé en présence de silice n'émet plus du tout de lumière. Donc on s'est dit, oups, bah en fait on pourrait potentiellement croire qu'on n'émet pas du tout d'oxygène singulé et que peut-être il n'y a pas d'oxygène singulé qui se forme dans cette réaction. Alors en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Notre système ici de rubipi qui est immobilisé sur la silice, il est dans un environnement qui est très protique. Donc il y a une couche d'hydratation de la silice naturelle et puis on a également ces fonctions silanol en surface. Et le problématique, c'est que ces fonctions OH, eh bien, elles vibrent exactement à cette longueur d'onde de 1970 nanomètres et donc ce sont des très bons désexcitateurs de l'oxygène singulé de manière vibrationnel. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que dans l'eau, on a une durée de vie de l'oxygène singulé qui est très très courte par rapport aux solvants aprotiques, dans lesquels la durée de vie de l'oxygène singulé est beaucoup plus longue. Donc, vous voyez, dans le dichlorométhane, on atteint 100 microsecondes, et par rapport à dans l'eau, on est à 4 microsecondes. Donc, en fait, l'oxygène singulé est très rapidement quenché dans ce milieu, et c'est limite une preuve que, en fait, l'oxygène singulé est généré à cette surface de la silice, par le ruthénium trispipi. Alors, pour continuer cette étude mécanistique, on s'est intéressé ici à la fluorescence de cet anthracène, et à suivre cette réaction de déclin de fluorescence. Ce phénomène de déclin de fluorescence avec l'oxygène singulé par réaction 4 plus 2 pour former cet endoperoxyde qui lui est non fluorescent. Donc si vous voulez, c'est une sonde à oxygène singulé qui vous permet de connaître la réactivité de votre système. Et donc on regarde ici le rubipi en solution et on voit que le déclin de fluorescence est très progressif, il est très lent, par rapport aux systèmes qui sont hétérogénéisés, et donc là on voit un déclin de fluorescence extrêmement rapide. Donc ça montre que finalement on ne s'était peut-être pas trompé, notre réaction est très très rapide avec nos systèmes hétérogènes. Et on a fait une expérience complémentaire, on a utilisé ici cet autre système anthracène, cette fois-ci qui est complètement apolaire. Donc dans le sud d'avant, on avait des acides carboxyliques ou des carboxylates, et là maintenant on a un système diméthyle, donc on a quelque chose de très apolaire. Et là, de manière très intéressante, on trouve que le rubipi, en solution, fonctionne beaucoup mieux que nos systèmes hétérogénéisés. Donc on a pu établir ce modèle mécanistique dans lequel le rubipi est situé à la surface, à l'interface avec la silice. Il a le droit de se désorber, mais finalement, il préfère générer de l'oxygène singulé à la surface. D'accord ? Donc des espèces d'oxygène singulé qui sont très localisées, qui sont quenchées directement par ces fonctions silanol. Mais si votre substrat a une fonction polaire, comme cet anthracène dicarboxylate ou bien l'acide dihydroartémisinique, il va venir s'adsorber sur la surface de la silice et réagir localement. Et c'est ce phénomène-là de concentration des réactifs qui fait qu'on augmente les cinétiques. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a production, une accélération de la réaction. Alors si on regarde d'un point de vue de la cinétique de la réaction, la plupart des photochimistes qui ont travaillé sur ces optimisations de réactions de photooxydation avec l'oxygène singulé se sont concentrés sur trois facteurs. Le premier, c'est le photosensibilisateur. C'est essayer d'avoir une absorption de photons la plus importante possible. D'accord ? Donc c'est ce paramètre IA. Donc on va essayer tout simplement d'augmenter le coefficient d'extinction molaire de notre colorant. Donc de faire une molécule la plus conjuguée possible, qui va absorber un maximum de photons. Ensuite, on va essayer de travailler sur le rendement quantique en oxygène singulé, c'est-à-dire notamment sur le passage de l'état singulé à l'état triplet. Et donc ça, c'est la conversion intersystème. On va rajouter des atomes lourds comme le ruthénium, l'iridium ou l'iode pour favoriser cette conversion de spin. Et puis, on va travailler également sur le solvant réactionnel quand on est en chimie organique, et on va essayer de travailler dans des solvants dans lesquels on a une durée de vie de l'oxygène singulé la plus longue possible. C'est pour ça qu'on va utiliser le dichlorométhane comme solvant. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait joué sur un paramètre de manière assez innocente en voulant recycler notre catalyseur. On a développé ici un système qui permet d'augmenter la cinétique de réaction entre l'oxygène singulé et le substrat, qui est ce paramètre KR, qui finalement n'avait jamais été utilisé dans le passé. Alors on s'est dit, ok, on a des systèmes qui sont relativement efficaces, est-ce que maintenant on peut introduire des nouvelles fonctionnalités dans ces systèmes supportés? Et donc on a des particules, on peut faire des nanoparticules, on peut faire des systèmes poreux, etc. On peut faire plein de choses, et on est encore en train de travailler aujourd'hui là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous donner deux références sur lesquelles on a travaillé en collaboration avec le professeur Audrey Moores à l'université McGill au Canada, à Montréal, et avec qui est experte dans la synthèse de nanoparticules, et de nanomatériaux en général, pour la catalyse. On a développé des systèmes magnétiques avec un cœur de fer zéro, donc qui sont maintenant des petits aimants qu'on peut recycler par filtration magnétique. Et on a développé également des systèmes plasmoniques, pour ceux que ça intéresse. Les phénomènes de plasmon permettent d'augmenter la fluorescence des ruthénium trisbipi en surface et donc leur activité photochimique. Donc en fait, on exalte par cette réactivité en surface par le cœur plasmonique, ce qui est très intéressant. Alors, pour rester sur ce qu'on a fait au CNAM, eh bien, on s'est particulièrement intéressé à la transposition de ces réactions en batch avec ces systèmes catalytiques hétérogènes vers des systèmes en flux continu. Et ce qu'on a développé, eh bien, c'est surtout des systèmes de lits paquets dans lesquels vous allez passer votre substrat et votre oxygène et faire cette réaction à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que vous avez maintenant plein de particules qui sont contenues dans un réacteur en flux et on va avoir une efficacité de l'irradiation qui est plus efficace puisqu'on augmente la surface d'irradiation. On va avoir un bien meilleur mélange en oxygène et liquide, gaz liquide. Et surtout, on va avoir une augmentation de la quantité de catalyseur par rapport au substrat localement. Donc on va changer ce qui se passe en batch, dans laquelle vous allez avoir une faible concentration de catalyseur par rapport au substrat. Là, en continu, on va avoir une forte concentration de catalyseur et donc une intensification très efficace du procédé. Alors là, on a travaillé dans ce projet en collaboration avec l'entreprise Pili, qui à l'époque était une start-up qui a démarré dans notre laboratoire et qui est aujourd'hui une société qui est assez grosse, de 50 personnes, et qui produit maintenant à l'échelle de plusieurs tonnes des colorants biosourcés. Donc eux, ils s'intéressaient notamment à l'époque à la production de colorants de type anthraquinone et ils avaient besoin qu'on leur donne un petit peu de matière pour pouvoir travailler parce qu'ils faisaient ça par fermentation et c'était pas forcément toujours très efficace à l'époque, c'était au début. Et donc on leur a fourni notamment cette juglone, ce composé, cette hydroxyquinone, naphtoquinone, qui est un précurseur synthétique et naturel d'ailleurs de ces anthraquinones. Cette naphtoquinone, elle est produite par photooxydation de 1,5 d'hydroxynaphtalène par l'oxygène singulé, comme je vous ai montré au début de ma présentation. Et donc on a utilisé ici un lit paquet avec de la silice et notre catalyseur supporté. Comment est-ce qu'on fait? On a notre silice poudre qu'on va intégrer dans un tube transparent, le remplir, ça devient un tube jaune, et puis on va ici passer le liquide à l'intérieur de ce tube et on va l'irradier. Donc ça fait un réacteur comme ceci, on a une pompe HPLC qui va pomper le liquide, une vanne de dosage d'oxygène pour apporter l'air ou l'oxygène dans le milieu, ça va se mélanger au niveau d'une pièce en T et rentrer dans le réacteur ici, il va y avoir un fort mélange, on va refroidir avec un ventilateur, c'est pas forcément très efficace, mais c'est avec les moyens du bord, de Leroy Merlin, et on va ici avoir le catalyseur qui reste contenu ici. Donc on va récupérer notre produit de manière assez pure dans le récipient de collecteur, Erlenmeyer. Alors très rapidement dans ce projet, on s'est rendu compte que notre ruthénium trisbupi, ce n'était pas forcément le meilleur candidat pour faire ces réactions chimiques et qu'en fait il fallait passer sur d'autres types de photosensibilisateurs tels que cette porphyrine ici qui a un coefficient d'extinction molaire bien plus important et donc une productivité en oxygène singulée plus importante. Et vous le voyez ici dans ce tableau, ici avec la même quantité de silice dans le réacteur, on passe de 45% de conversion à 77% de conversion avec cette porphyrine. Lorsqu'on maintenant augmente le nombre de tubes, on fait ce qu'on appelle en anglais le numbering up, et ça c'est assez intéressant en flux parce que vous voyez ces tubes sont très fins, donc ça ne prend pas plus d'espace sur la paillasse, vous augmentez considérablement la productivité de votre réacteur ici, donc on a une productivité qui est augmentée par 24 par rapport au système batch, et donc on a atteint ici enfin une conversion de 100% sans désactivation du catalyseur pendant 12 heures, et donc on a pu produire à l'échelle du gramme cette juglone pour la start-up. Alors au cours de ce projet, finalement, on s'est rendu compte que cette réaction elle était extrêmement intéressante d'un point de vue modèle réactionnel, et c'est d'ailleurs ce que la plupart des photochimistes qui étudient l'oxygène singulé font depuis des dizaines d'années. Ils étudient la réaction entre l'1,5 d'hydroxynaphtalène pour produire les juglones. C'est une réaction standard dans la littérature. Vous en trouverez plein, et vous trouverez plein de catalyseurs qui font ça. Mais de manière très intéressante et un peu intelligente, smart, on va dire, mon jeune doctorant, Maxime Lancel, eh bien, s'est dit un jour, eh bien, est-ce que cette juglone, elle ne pouvait pas avoir une activité photocatalytique intrinsèque? En effet, c'est une cétone aromatique, transition pi étoile, NP étoile, enfin voilà, quelque chose d'actif avec la lumière visible, c'est un colorant. Et ça ressemble très fortement à ces phénalénones ou ces benzophénones que vous allez voir dans la littérature très souvent, qui sont des très bons producteurs de triplets. Et donc son rendement quantique n'était pas connu et on s'est demandé si ce système-là pouvait être un catalyseur de sa réaction. Donc, c'est-à-dire, on s'est dit, on va doper notre réaction chimique avec le 1,5 d'hydroxynaphtalène, sans photocatalyseur extérieur, mais en mettant la jugulone, le produit de la réaction, comme photocatalyseur. Et en effet, on a mesuré le rendement quantique, on a trouvé qu'il produisait 16% d'oxygène singulé et que ça produisait 50% en rendement isolé de cette jugulone, d'elle-même, en fait, si vous voulez, mais en mettant une quantité catalytique, bien sûr. Et c'est tout à fait un résultat qui est assez surprenant parce que c'est tout à fait comparable avec cette bébête qu'on appelle c'est la tétraméthylpyridinium porphyrine, qui elle a un rendement de 75% en oxygène singulé et avec laquelle on obtient un rendement isolé en jugulone de 60%. Alors Maxime, il a poussé un petit peu le délire un peu plus loin et il s'est dit, maintenant je vais tester cette réaction avec une réaction contrôle. Donc toujours très important de faire des réactions contrôle. On ne se rend pas compte de l'importance que ça a, mais c'est vraiment fondamental. Donc il a fait la réaction sans photocatalyseur, sans doper en jugulone, sans rien mettre dans le milieu. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? C'est 85% de rendement en jugulone. Alors là, je lui ai dit, refais la manip. Il est revenu, il m'a dit, j'ai obtenu 85% rendement isolé. Je lui ai redit, purifie le produit de départ, refais la manip. Il est revenu, 85% de produit isolé. On a repurifié le produit des dizaines de fois pour être sûr qu'il n'y avait pas de traces de jugulone, d'auto-oxydation dans le milieu, non. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'avec l'oxygène, donc ce produit est assez sensible. D'ailleurs, quand vous l'achetez, vous ouvrez la boîte, c'est des poudres blanches. Et puis, assez rapidement, ça brunit, et ça noircit même, et ça devient donc un peu coloré. Donc, il y a des polymères qui se forment, quelque chose. Voilà, c'est un produit qui n'est pas stable à l'air. Donc, faites attention, tous ces dérivés phénoliques, il faut faire attention à les conserver toujours sous atmosphère d'argon et potentiellement à l'abri de la lumière. Vous allez voir pourquoi. Donc, on pense que l'oxygène triplé ici vient faire peut-être un complexe à transfert de charge avec le 1,5 d'hydroxynaphtalène, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça génère des radicaux. On a détecté ça par spectroscopie EPR. Et on a pu identifier la formation de radicaux C-centrés et O-centrés, d'espèces de type peroxyde radicalaire. Et donc, sa formation de ces espèces va initier une cascade réactionnelle, probablement, formation d'oligomères. Donc, on a pu isoler des molécules qu'on n'a pas pu caractériser parce que c'était amorphe, très difficile à caractériser, mais on les a isolées, on a mesuré la fluorescence de ces composés, on voit une luminescence à 630 nanomètres et on a pu prouver qu'ils produisaient de l'oxygène singulé, ce qui deviennent photoactifs, ils sont colorés. Et lorsqu'ils s'agrègent, on appelle ça des melanin-like aggregates, parce qu'on ne sait pas trop comment les qualifier, ça fait de la poudre noire, des nanoparticules noires qui sont en solution et qu'on peut précipiter et récupérer. Et donc, on a pu démontrer que ces composés-là produisaient de l'oxygène singulé, qui est un phénomène de renforcement ou de démarrage de réactions photochimiques par l'oxygène et le 1,5 d'hydroxynaphtalène seul. Ensuite, cet oxygène singulé va se charger, lui, de faire la réaction chimique. Alors oui, pour parler juste rapidement, avant de passer à la fin du mécanisme, ces oligomères, on pense que ce sont des choses qu'on peut retrouver dans le brunissement des noix. Donc, en fait, la jugulone et ses 1,5 d'hydroxynaphtalène sous forme de conjugué avec des sucres, ce sont des produits naturels. Et ça, c'est un phénomène qui est totalement biomimétique. Et donc, c'est ce qui va se produire dans les noyers. Et quand vous voyez les noix qui brunissent, on pense que c'est peut-être lié à la formation de ces oligomères. Donc, ces oligomères vont produire de l'oxygène singulé et photooxyder à leur tour le 1,5 d'hydroxynaphtalène qui va produire ce peroxyde allylique intermédiaire qui va ensuite se cliver en jugulone. Et la jugulone, donc, en est son rendement quantique en oxygène singulé. Donc, elle va continuer la cascade réactionnelle. Et donc, in fine, en fait, on a un démarrage. Quand on suit la réaction par spectroscopie, on a une forme sigmoïdale de la cinétique réactionnelle. On voit d'abord une phase très lente de démarrage de la réaction et ensuite une accélération très rapide de cette réaction. Donc, on a pu utiliser la jugulone comme photosensibilisateur dans la valorisation de produits de biomasse comme le bétapinène, qui est un produit dont je reparlerai tout à l'heure, qui est un produit du pain, donc un des terpènes les plus abondants sur Terre, et donc pour produire cet alcool allylique après réduction. L'oxydation du furfural, qui lui vient également de la biomasse, qui vient de l'hémicellulose, donc également un polymère très très abondant sur Terre, et donc on peut produire ces intermédiaires de type hydroxyfuranone, qui sont très intéressants d'un point de vue synthétique. Et puis, on a également utilisé cette juglone pour essayer de démontrer qu'on pouvait produire de l'artémisinine avec un rendement ici un peu modeste, très très modeste, de 25%. Alors, cette collaboration avec cette société Pili nous a poussé également à nous intéresser aux anthraquinones. Et aujourd'hui, je ne vous présenterai pas tous les résultats, mais on a vraiment des développements sur ces anthraquinones qui sont très intéressants, notamment comme photocatalyseurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces hydroxyanthraquinones, elles peuplent très facilement l'état triplet et donc elles peuvent elles-mêmes générer de l'oxygène singulier. Donc on s'est demandé si on ne pouvait pas comparer la réactivité de ces hydroxyanthraquinones avec différentes substitutions et voir un petit peu comment elles allaient réagir. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais simplement pour vous expliquer que c'est assez compliqué de faire ça d'un point de vue pour le chimiste, parce qu'elles absorbent dans des gammes de longueur d'onde qui sont très proches, et donc on a besoin de systèmes qui permettent d'irradier efficacement ces colorants. Et donc pour cela, on a designé ici un système de LED dans lequel on a 90 LED qui sont assemblés avec 12 couleurs différentes. Donc qui vont du bleu, violet, d'ailleurs c'est là-dedans que je crois qu'on a du 390 ou 395, ou du 425. Enfin voilà, ça démarre avec le bleu et puis ça va jusque dans le proche infrarouge. Pourquoi ? Parce qu'on a un autre projet qui va dans le proche infrarouge. Et donc, on a ici assemblé ce réacteur qu'on va utiliser en flux continu. Donc, on a des tubes qui viennent passer dans ce rack. Et on va pouvoir étudier la réactivité et comparer la réactivité de nos chromophores avec des lumières qui sont très bien caractérisées. Et donc, vous avez ici le système assemblé, donc la pompe HPLC, la vanne de dosage d'oxygène, et puis le système d'irradiation, ici, ce qu'on appelle un back pressure regulator, pour réguler la pression dans le réacteur. Alors, je ne vais pas détailler la chimie derrière, mais simplement pour vous montrer les setups. Et puis ensuite, on s'est intéressé à l'immobilisation de ces catalyseurs. On s'est demandé si ils étaient efficaces en milieu homogène, mais est-ce qu'on ne pouvait pas les utiliser en milieu hétérogène. Et ici, on a trouvé qu'ils s'adsorbaient de manière très efficace sur l'alumine basique, parce que ça allait déprotoner les hydroxys et probablement chélater. C'est comme si c'est une hydroxycétone. Vous allez avoir un cycle à 6 avec l'aluminium, probablement, qui va venir faire un ancrage sur l'alumine très efficace. Et donc, vous pouvez produire ici des photosensibilisateurs. Et vous voyez qu'ils n'ont plus du tout la même couleur lorsqu'ils sont déprotonés, parce que probablement, maintenant, la délocalisation des électrons est complètement différente. Et donc, on va pouvoir étudier ces réactions également dans d'autres systèmes en flux continu. Donc ici, on s'est réintéressé à la valorisation du pinène, qui, comme je vous l'ai dit, est un des terpènes les plus abondants sur Terre. Et donc, on va ici photooxyder ce pinène pour produire cette hydroxyallylique, pour produire notamment des polymères biosourcés. Et donc, on a ici un tube transparent dans lequel on a les LED qui viennent éclairer, comme tout à l'heure, notre photoréacteur hétérogène. Alors, je passe un peu rapidement pour aller vers des nouveaux projets dans notre laboratoire qui s'intéressent à la photochimie avec des lumières moins énergétiques. En effet, jusqu'alors, je vous ai présenté des colorants qui ont des absorptions dans la gamme du bleu. D'accord ? Or, le bleu, le violet qu'on a vu tout à l'heure, à 390 nanomètres, c'est quand même assez fort en énergie et il peut se passer plein de réactions parasites. D'accord ? Donc, on est plutôt vers 60 et 90 kilocalories par mol. Or, pour générer de l'oxygène singulier, on a besoin ici que de 24 kilocalories par mol. Entre guillemets, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire cet oxygène singulier. Il le fait presque tout seul, presque, mais pas. Et finalement, on a plutôt intérêt à se diriger vers des longueurs d'onde de beaucoup plus basse énergie. Alors l'intérêt, il est multiple, c'est qu'on va utiliser de la lumière moins énergétique et surtout, comme ces longueurs d'onde sont plus grandes, eh bien, on va avoir moins de phénomènes de diffusion de lumière dans le milieu et donc elles vont mieux pénétrer dans le milieu. On va avoir des réactions qui vont être plus sélectives parce qu'il va y avoir beaucoup moins de molécules qui absorbent à 800 nanomètres qu'à 400 et on va avoir une plus de sécurité pour l'opérateur. Il faut faire attention quand on fait de la photochimie, surtout avec les lumières bleues. Il ne faut pas les regarder très longtemps parce que c'est très mauvais pour la rétine. Donc, quand on est dans la lumière rouge, et proche infrarouge en particulier, si vous voyez sur mon device que je vous avais présenté ici, il y a des lumières que vous ne voyez pas. Et bien, c'est parce que toutes les LED sont allumées, mais on ne voit pas la lumière proche infrarouge. Donc, il faut utiliser un appareil photo pour savoir si elle est vraiment allumée parce que votre appareil photo au smartphone va pouvoir la détecter, mais pas vos yeux. Et donc, vous avez une totale sécurité au niveau du manipulateur. Ça, c'est important hein, d'un point de vue pour les chimistes. Le problème, c'est que tout ce qui va absorber à ces longueurs d'onde de 800 nanomètres, eh ben, c'est très instable parce qu'on passe sur des systèmes polyaromatiques très conjugués qui sont très sensibles à l'oxygène en particulier et également à la lumière de manière générale. Un exemple, c'est le bleu de méthylène, ici, qui est un colorant qui absorbe à 650 nanomètres, qui est bien connu, qui est un colorant alimentaire, pharmaceutique, mais qui est très, très instable. Donc, évitez de manger des choses qui sont bleues, parce qu'en général, ça contient du bleu de méthylène, et c'est souvent pas pur, parce que le bleu de méthylène va se dégrader. Et donc, on a travaillé ici sur l'utilisation de ce bleu de méthylène, sa stabilisation sur la silice. Je ne vais pas vous détailler ça, mais en collaboration avec Corning, on a développé un procédé en continu qui permet d'utiliser ce bleu de méthylène à des échelles catalytiques vraiment très faibles. Et puis, on est passé sur des systèmes beaucoup plus robustes qui s'appellent les phtalocyanines, et donc qui ne sont pas forcément très utilisées en photochimie, mais qui ont un intérêt, qui sont très intéressantes. Elles absorbent presque dans le proche infrarouge, elles sont à 680 nanomètres. Certaines peuvent absorber au-delà de 700. Et on s'est intéressé en collaboration avec une société française qui s'appelle Porphichem, qui produit des porphyrines et des phtalocyanines, qui nous ont fourni des échantillons de ces composés. On a comparé la photoréactivité de différentes phtalocyanines avec des noyaux, des cœurs palladium, platine, palladium, zinc, ou rien du tout, ou avec des atomes de silicium. Et on a mesuré pour chacune de ces phtalocyanines les rendements quantiques en oxygène singulet. Et on se rend compte qu'ici, avec le platine, ben, on a un excellent rendement quantique de 95%. Normal, on a un atome très lourd, le platine, qui fait un très bon intersystème crossing, croisement intersystème, et donc qui produit beaucoup de triplets. Et ensuite, on a comparé ces catalyseurs avec leur cinétique. Donc on a regardé les turnover frequencies, la fréquence des cycles catalytiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ben, nos phtalocyanines de silicium, même si elles avaient un rendement quantique en oxygène singulier relativement faible, ben, elles étaient tout à fait comparables en termes d'effet cinétique sur la photooxydation ici du citronellol. Et donc on a des TOF qui sont voisins de ceux avec le platine ou le palladium. Alors on s'est dit, bon, ben, on va utiliser ces phtalocyanines dans des systèmes en continu. Et on a travaillé ici avec le réacteur Corning. Et donc c'est un réacteur qui est une plaque transparente, d'accord, donc qui fait quelques millimètres d'épaisseur, et dans laquelle vous allez injecter vos réactifs, ici et ici. Vous pouvez injecter par exemple un gaz ici et un réactif liquide de ce côté-là. Et ça va venir se mélanger dans ces systèmes avec des hackers, dans lesquels vous allez avoir une forte turbulence du système, donc il faut aller avec des débits assez forts, c'est fait pour de la production industrielle, hein. Et donc vous avez ici le réacteur qui est là, il est tout petit, ici tout le système de pompage et de dosage d'oxygène, et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va encore une fois bypasser notre cher ami Berlambert en passant dans des systèmes en continu. Et alors, avec ces réacteurs qui sont très efficaces, eh bien, on a pu descendre à des loadings, des charges catalytiques extrêmement faibles. Donc ici, on a l'échelle du sub-PPM, du PPB en catalyseur, quand on calcule de manière molaire. Et le réacteur est tellement efficace, et le colorant aussi est tellement efficace pour générer l'oxygène singulier, surtout pour réagir avec... pour faire cette réaction chimique, et qu'on peut travailler maintenant sans solvant. Et ça, c'est assez puissant, parce qu'en fait, c'est grâce à ces phtalocyanines de silicium, c'est pas possible avec les autres types de phtalocyanines, parce qu'en fait, ces phtalocyanines de silicium, eh ben, elles vont être solubles dans le citronellol qui est liquide. Et donc, ce phénomène-là nous permet maintenant de travailler en milieu sans solvant. Donc d'un point de vue de l'impact environnemental, etc., on a une accélération, une augmentation de la productivité et de la réduction de déchets, etc. Donc très rapidement, pour terminer, je vais vous raconter une dernière histoire qui est celle de comment est-ce qu'on a réussi à hétérogénéiser ces photosensibilisateurs sur de la silice. Donc on revient à notre histoire de départ. On a pris ici la propriété de ces silanols ici pour pouvoir faire une transestérification au niveau de cet atome de silicium, de la phtalocyanine. Ça se fait très bien. Vous prenez votre phtalocyanine, elle est soluble dans le dichlorométhane lorsqu'elle n'est pas substituée, sinon elle est soluble dans des solvants un peu plus verts. Vous chauffez un petit peu et puis hop, vous obtenez votre système qui est hétérogène. Et donc vous pouvez filtrer, maintenant vous pouvez utiliser des phtalocyanines qui sont diversement substituées ou alors non substituées. Et maintenant, on a surtout une liaison qui est covalente avec la silice. Alors comment est-ce qu'on a prouvé que cette liaison est covalente? Eh bien, on a refait notre expérience de départ, qui est d'utiliser de la microscopie de fluorescence. On a rajouté de la silice nue dans le milieu et on a montré qu'elle n'était pas recouverte par l'aphtalocyanine. En regardant ici, vous voyez ces particules de silice qui sont non fluorescentes. Donc on prouve ici qu'on n'a pas ce phénomène de capture and release qu'on avait précédemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut utiliser des phtalocyanines non substituées, donc très faciles à produire, avec des étapes de production beaucoup plus raccourcies. Et on va maintenant pouvoir travailler dans des solvants très verts, dans lesquels ces phtalocyanines ne sont pas solubles. Donc, si je prends la phtalocyanine de silicium classique, elle n'est pas du tout soluble dans l'éthanol, et donc, je n'ai pas de conversion. Mais si je commence à la substituer sur de la silice, c'est toujours dispersé en solution, il n'y a pas de solubilisation, mais je vais maintenant avoir une conversion qui apparaît. Donc mes phtalocyanines deviennent réactives et si je commence à passer sur des solvants verts comme le diméthylcarbonate, eh bien on a ici 73% de conversion de ce citronellol en produit à 630 nanomètres d'irradiation. Donc ensuite, on a pu utiliser ces phtalocyanines immobilisées pour faire de la chimie de l'oxygène singulier, comme tout à l'heure, mais également pour faire des réductions, des déshalogénations ou alors des réductions de sulfate de cuivre pour produire des oxydes de cuivre ici. Et donc, on est toujours en train d'essayer de dépasser la limite de 700 nanomètres et d'aller même au-delà de 800 nanomètres. Il y a des très bons groupes de recherche en France et à l'étranger qui ont déjà développé des systèmes très efficaces. Et donc, pour passer à l'échelle au-delà de 800 nanomètres, eh bien, on a développé ici des réacteurs en collaboration avec l'entreprise Signify, qui est hollandaise, qui est une filiale de Philips, qui produit des LED de très bonne qualité, que je recommande fortement. Eh bien, vous allez ici avoir des systèmes qui irradient dans le proche infrarouge jusqu'à 1000 nanomètres, avec une très forte puissance optique. Voilà, donc avec tout ça, le takeaway message que je voulais vous laisser, sur lequel je vais vous quitter aujourd'hui, c'est que les photosensibilisateurs peuvent être recyclés. Et c'est toujours intéressant de penser chimie verte et penser recyclage, parce qu'en fait, on est loin d'imaginer toutes les possibilités que ça offre, notamment au niveau de la réactivité, de la stabilité de ces catalyseurs. On peut introduire des fonctionnalités et puis on peut développer des procédés en flux continu à des énergies qui sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc, et surtout, le plus important, je pense, c'est de pouvoir travailler sans solvant. Avec tout ça, je voudrais remercier tout le laboratoire du CNAM qui m'a accueilli depuis depuis 2016, donc presque 10 ans maintenant. Donc tous ces collaborateurs, les permanents, les non-permanents. Je voulais également remercier mes collaborateurs, notamment Cyril Monroe, avec qui j'ai beaucoup appris à l'ENS de Lyon, avec Audrey Mours et ses super doctorants à l'Université McGill, Janine Cossy et puis le projet Artemisinine. Et puis, plus récemment, je collabore notamment avec Ilaria Cioffini et Carlo Adamo à Chimie ParisTech, qui sont d'excellents théoriciens sur la chimie des anthraquinones. Donc, je remercie également les collaborateurs industriels et surtout la société Pili qui nous a financés et qui a cru en nos projets et qui nous a beaucoup aidés. Et aussi également toutes les funding agencies, la CS Green Chemistry Institute qui a été le premier financement que j'ai obtenu en tant que maître de conférence et qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et ensuite, la Bill & Melinda Gates Foundation et l'Agence nationale de la recherche et puis maintenant l'IUF. Voilà, avec tout ça, je vous quitte sur une citation de l'abbé Grégoire, qui a été le père fondateur du Conservatoire national des arts et métiers, donc notre maison qui est située en plein cœur de Paris. Ici, vous avez la photo du musée du CNAM, qui est très intéressant et que je vous invite à visiter fortement, notamment le laboratoire de Lavoisier, la reconstitution du laboratoire de Lavoisier. Et donc sa citation, il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître. Voilà. Je peux citer encore 2 minutes, mais donc très récemment, on a monté une start-up sur la valorisation de déchets de biomasse, et notamment ce qu'on appelle la lignine, qui est un polymère polyaromatique, qui est extrait du bois. Et donc cette lignine, c'est un gisement de molécules aromatiques extrêmement important, de plusieurs millions de tonnes qui sur Terre, dont on n'a absolument rien à faire, qu'on brûle à 97% pour produire de l'énergie, donc c'est un peu du charbon. Et donc, on a monté une start-up qui s'intéresse à dépolymériser, donc à couper ces fragments de lignine pour produire des monomères aromatiques ou alors des oligomères aromatiques. Et donc, c'est un projet qui est dans l'air du temps, comme je vous l'ai dit, utilisation de matières premières ressourcées et renouvelables, biosourcées et renouvelables. Voilà, merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.